Je vais encore en remettre une couche après ce que Franck, ce que Manu ont dit. Ce qu'a apporté Sam Matthews, bon, on n'était pas tout le monde, n'avait pas pu se venir, hein, mais c'est vraiment, c'est pas une option, quoi. Je crois que vraiment, c'est des armes que Dieu nous a données parce qu'il connaît nos combats actuels et puis il connaît les combats qu'on va devoir mener. Et c'est des armes puissantes et il est venu nous équiper, voyez. Donc en tant qu'Église, on doit tous s'approprier ces armes parce qu'on en a vraiment besoin. C'est pas une option. Et ça renouvelle complètement notre façon de prier. Ça nous amène à prier avec puissance, avec foi, avec quelque chose de nouveau. Mais c'est vraiment une révélation. Je crois qu'on en a absolument besoin. C'est pas une option. C'est pas un petit plus dans notre vie spirituelle. C'est incontournable. Vous voyez, je voudrais vraiment, vraiment insister. On l'aura disponible sur le site. Il faut vraiment. Je crois que tout, on peut pas se passer de ça, quoi. Par rapport aux combats qui sont là et les nouveaux qui nous attendent. Par rapport à l'élargissement, tout ce qui est devant nous, on a vraiment besoin de ce message. Alors, je me dis, on a déjà une grosse chose nouvelle à pratiquer et à mettre, que ça devienne concret dans nos vies quotidiennes. Et puis, je me suis dit, oh là là, encore un message. Et puis, tous les dimanches, il y a quelque chose de nouveau, toc, toc, toc. Moi, je trouve qu'on est dans un cours accéléré quand même. Hein. Parce que si on doit pratiquer tout ce qui est enseigné, il faut. Eh bien, ça fait beaucoup de travail quand même. On a beaucoup de devoirs. Hein. Alors, bon, là, quand même, il y aura une partie de révision pour ceux qui étaient là en juin 2005. Mais tout le monde n'était pas là en juin 2005. Qui n'était pas là en juin 2005 ? Ouais, bah, oui. Et puis même, alors moi, initialement, je voulais tout de suite repartir sur juin 2005, le prophétique, Apocalypse, Ésaïe, et on y va, avec ce qu'a apporté Martin Scott en juin 2005. Et puis dans la semaine, j'ai vraiment compris qu'il fallait repartir sur des bases fondamentales. Avant d'aller dans les grandes choses prophétiques, il fallait revenir aux bases. Et puis les bases, on en a tous besoin, pas que les nouveaux convertis qui sont peut-être parmi nous, mais aussi tout le monde. Parce qu'on ne peut pas aller loin si on ne s'approprie pas les bases et si on ne pratique pas les bases. Hein. Alors, bon, il y a quelque chose quand même dans la parole qui, je vais commencer par le début, quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Vous savez, vous connaissez tous, on lit des passages de la Bible 10 fois, 20 fois, et puis tout à coup, il y a un rayon laser qui vient, qui touche un mot et tu dis « Oh, on n'avait jamais vu ça comme ça ». C'est ce qu'a apporté Sam avec Nombre 6. Hein. Mais là, c'est autre chose. Donc, vous savez tous que le culte dans le temple était organisé d'une certaine manière, de manière très, très, très précise. Et quand on lit tous les livres de l'Ancien Testament, hein, on a toute l'organisation du culte dans l'Ancienne Alliance. Et Hébreux 8 nous dit que c'est l'ombre des réalités célestes. Donc, ce qui veut dire que tout ce qu'on lit dans l'Ancien Testament, ça nous parle pour nous. Ce n'est pas une petite chose à laisser de côté. Ça nous parle pour nous. Alors, on sait tous que dans l'organisation de le culte dans le temple, il y avait les sacrificateurs. OK, sacrificateurs, on connaît, on est tous des sacrificateurs, hein, c'est Pierre qui nous le dit. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Et puis Apocalypse nous dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc, il y avait des sacrificateurs dans le temple, dans l'ancienne alliance, et maintenant, on est tous sacrificateurs. Bon, ça, on connaît, sacrifice de louange, sacrifice de plaider le sang pour les nations, pour notre nation, pour notre famille. Enfin, on connaît en gros ce rôle de sacrificateur. Il faudrait un message entier pour développer ça. Non, mais je pense qu'on connaît. Oui, il faudrait. Ce que c'est qu'un sacrificateur dans la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. Bon, mais on est tous sacrificateurs. Ça, c'est établi. Après, les chantres. Il y avait des chantres. Bon, il y a des ministères de chantres, hein, comme il y a des ministères de sacrificateurs particuliers. David, Émilie, c'est des ministères de chantres particuliers. Mais on est quand même tous appelés à être chantres. Vous êtes d'accord avec ça ? Hein ? Colossiens 3,16 nous dit sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. C'est pas que les chantres spécialistes, c'est tout le monde. On est tous appelés à chanter. À mon avis, on chante pas assez. Est-ce que au volant de votre voiture, vous chantez d'abord, ou est-ce que vous écoutez France Info, oui, ou est-ce que voilà, bon, chantez ou parlez en comment ? Voilà. Oui, c'est pas mal. Chantons sous la pluie. Et puis parler en langue. Hein. C'est pas mal parler en langue aussi. Il y en a qui sont plus, ils aiment mieux le parler en langue. Bon. Mais enfin, on a tous appelé à être des chantres. Et donc ça nous parle des Lévites. Hein. Mais il y a une catégorie de Lévites. Alors là, honnêtement, moi, en 25 ans de conversion, non, 30, bientôt 30 ans de conversion, j'ai jamais entendu parler de cette catégorie-là. Ça interpelle quand même. Les sacrificateurs, on connaît. Les chantres, on connaît. Les chantres, d'ailleurs, du temps de David, il y en avait 4000. 4000 chantres organisés, vous savez, pour faire la louange 24 heures sur 24. 4000. Et puis, les sacrificateurs, bon, ils ne disent pas le nom, mais il doit y avoir pas mal. Les Lévites étaient 38 000 en tout. 38 000 consacrés au service de Dieu. Il faut le faire. Et puis, il y a une catégorie qu'on ne mentionne jamais. Jamais. Il y en a qui savent. On ne mentionne jamais. Ils étaient 4 000 quand même, cette catégorie-là. 4 000. une catégorie. Et puis, attends, c'est... Hein ? Ben oui, autant que les chantres. Bon, il y en a une autre catégorie, mais celle-là, je n'ai pas de révélation. Et puis, je pense que c'était tout ce qui est... Tout, les magistrats, les juges, ils étaient aussi très nombreux. Hein. Mais bon, ceux-là, bon, c'est à part. Hein. Donc, c'est de la catégorie des portiers. 4000 portiers. Oui, Émilie, tu es partante pour faire un message sur les magistrats. Il y a un volontaire. 4000 portiers. 4000. Et pas que du temps de David, hein. Il y avait des portiers déjà du temps de Moïse, quand il fallait, quand il y avait la tabernacle dans le désert. Du temps de David, après le retour de la déportation à Babylone, il y avait de nouveau des portiers établis. Et du temps de Néhémie, on a réinstauré les portiers. Donc les portiers, c'était une catégorie très importante. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Nouvelle Alliance, les portiers ? Vous voyez ? On se dit, bon, chante, sacrificateur, ok. Mais les portiers, c'est quoi ? C'est quoi les portiers ? Et puis, c'est là que... On réfléchit, on cherche dans la parole. D'ailleurs, portier en français, ça ne donne pas grand-chose. Je préfère la traduction. En anglais, ils disent gatekeeper. Et gatekeeper, ça veut dire le gardien de la porte. C'est mieux quand même, hein, parce que portier, gardien de la porte. On va plutôt dire ça. Hein. Et alors, je vais quand même dire, en juin 2005, on a un prophète qui est venu, Martin Scott, et qui nous a dit, vous êtes une église porte. Bon, c'est une église porte, c'est qu'on est plein de portiers, hein, je pense. On est une église porte. Et moi, je voulais travailler là-dessus. Voilà, l'église porte, qu'est-ce que ça veut dire, une église porte ? Et puis, il me semble vraiment, c'est l'esprit du Seigneur qui, dans la semaine, travaillait et dit, non, tu ne pars pas par commencer par dire l'église. L'église, elle est composée de personnes. Et on a chacun une fonction de portier, mais ça commence par la base. Alors, je vous dis, en tant que portier, qu'est-ce qu'on doit garder en premier ? Quel est le premier temple qu'on doit garder ? Ben oui, on est chacun un temple, vous êtes d'accord ? Tous ensemble, on fait un grand temple, mais chacun de nous, on est un temple. Hein. Vous êtes le temple de l'esprit, vous connaissez ce passage. On est un temple, donc on doit garder son temple. On ne pourra pas garder, la ville, les nations, tout ça, si on ne commence pas par garder son petit temple à soi. Là. Et ce temple, il a une porte. C'est quoi la porte ? C'est quoi la porte ? Oui. Et puis la parole dit aussi, là, hein, c'est étroitement lié. Le cœur, la bouche, c'est très, très, très lié, ça. Hein. Et là, les problèmes commencent. Déjà là, avouez qu'on n'est pas très bon. Hein, on n'est pas bon. Ça, oh là là, déjà le boulot qu'on a, rien que là. Éternel, dit le psaume 141, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. Tout un programme. Et puis Matthieu 15, ce qui sort de la bouche provient du cœur, c'est ce qui rend l'homme impur. Donc curieusement, comme a dit Jésus très justement, ce n'est pas ce qui rentre par là qui nous rend impur, c'est ce qui sort de nous qui nous rend impur. C'est l'inverse de ce qu'on pourrait croire. Hein. Et parfois, on focalise beaucoup sur la nourriture, mais bon, il faut d'abord peut-être penser à ce qui sort de notre bouche, vous voyez. Qu'est-ce qui sort de notre bouche ? Et parfois, il y a de l'eau saumâtre, très saumâtre. Et puis Jacques nous dit, mais attendez, parfois l'eau douce, parfois l'eau amère. Parfois, je ne sais pas si vous entendez dire, et puis vous dites, oula, qu'est-ce que je suis en train de raconter là ? Et des paroles d'incrédulité, et de défaitisme, et puis des paroles négatives sur soi-même. Qu'est-ce que je suis nulle ? Là, on se bat avec ça au collège. Je suis nulle ! Arrête de dire ça, enfin. C'est... Les ados, on se bat vraiment avec ça. Puis je pense les petits en primaire, pareil. T'es nul, je suis nul. Des paroles de mort, quoi. Hein. Alors, il y a gros travail à faire avec ça. Alors, vous connaissez par cœur le passage, mais je pense qu'on le relit quand même. Proverbe 18 qui nous dit, alors on le dit souvent à l'école, ça, on travaille avec, un Manu qui travaille avec ça avec les élèves, c'est là. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, celui qui l'aime en mangera les fruits. Donc on connaît ça, mais on choisit ou la vie ou la mort, et le pire c'est qu'on mange ça. Et je ne serais pas étonnée, peut-être que Nadine, je ne sais pas ce que tu pourrais dire, mais voilà Nadine. Ah oui, que c'est les maladies peut-être là-dedans, c'est peut-être lié en partie à ce qu'on dit. Il y a des choses, on s'avale du poison quoi. Parole d'incrédulité, de défaitisme, de désespérance et tout ça, plus de médisance, etc., ça fait vraiment du poison qu'on s'avale, là. Et je ne sais pas ce que ça fait dans le corps. Ça ne doit pas faire très bon dans le corps. Voilà, donc là, tout un programme, on est gardien. Et puis, il n'y a pas que les portes d'entrée, ce n'est pas que la bouche. C'est aussi les yeux, c'est les oreilles. Et alors, il y a quand même un moyen pour s'en sortir. Et je pense que c'est un moyen qu'on ne pratique pas assez dans notre culture occidentale. C'est la confession des péchés. Vous voyez ? La confession des péchés, ça veut dire qu'on... Vous savez, dans certaines dénominations, on parle de l'examen de conscience quotidien, le soir. Qu'est-ce qu'on a fabriqué dans la journée? Mais il y a du bon là-dedans. On s'examine et on dit, oulala, là, j'ai déraillé avec quelqu'un, j'ai déraillé avec moi-même, j'ai déraillé. Et puis, on demande pardon. Parce que la parole dit, celui qui dissimule ses fautes ne prospère pas. Implicitement, ça veut dire, celui qui les avoue, bon, il trouve compassion, ça c'est la suite du texte, mais eh ben, il prospère. Si on confesse ses fautes, si on demande pardon, eh bien, on va progresser. On va arrêter de dire des bêtises sur soi-même et sur les autres, voyez. Il faut confesser et puis demander pardon. Et puis, on grandit comme ça, petit à petit, on en dit de moins en moins des bêtises. Et puis, on dit de plus en plus, comment? Ah oui, référence, c'est Proverbe 28, 13. Celui qui dissimule ses fautes ne prospère pas ou ne réussit pas. Donc, si on les confesse au fur et à mesure, eh ben, on progresse. On passe dans la classe au-dessus. On grandit spirituellement. Si on reste stagnant, ben, voilà, c'est pas très motivant. Donc, notre premier temple, c'est nous-mêmes. Garder notre bouche, nos yeux, nos oreilles, bien sûr notre cœur, hein, parce que de lui sortent les sources de la vie. Hein. Alors ça, c'est un premier niveau, c'est peut-être basique, mais avouez qu'on a encore du boulot, quoi. On a vraiment du boulot. Et puis parfois, c'est très insidieux, hein, c'est des paroles... vous voyez ce que je veux dire, c'est très subtil. Hein. Ce n'est pas la parole de foi, ce n'est pas non plus la grosse médisance énorme ou la grosse calomnie, mais c'est la crédulité, c'est la désespérance, c'est des petites choses comme ça, et ça nous pollue. Ça pollue le temple que nous sommes. Parce que Dieu, il est entièrement positif, il est entièrement lumière, il est entièrement vie. La mort, ça ne connaît pas. Vous voyez ? Et puis alors, il y a un deuxième niveau. Alors, premier niveau, on est gardien de soi. Et déjà, gros programme, plein de travail à faire. Deuxième niveau, alors là, je vais peut-être aussi m'attarder un peu, c'est le foyer, la famille. Et là, c'est aussi tout un programme. C'est la famille. Et comme gardien de la famille, on a des images fortes dans la parole. Il y a Proverbe 31, la femme vaillante, là, de Proverbe 31. Elle surveille la marche de sa maison, ou bien, notre traduction, elle surveille les allées et venues de sa maison. Elle a vraiment ce rôle de sentinelle dans sa maison. Bon, c'est pas que les femmes. Moi, je pense que les femmes, effectivement, ont un rôle spécial dans le foyer, mais on a un autre personnage auquel vous penseriez peut-être pas, peut-être même pas du tout, mais qui était aussi, avait ce rôle de gardien, de gatekeeper, là, de gardien de la porte. Alors, ce personnage, vous pensez certainement pas que c'est lui, mais c'est quand même, ça m'a interpellé, c'est Job. Job. Ah, Job. Ah bon, on pense toujours Job, il a eu plein de problèmes. Non, non, c'était aussi, par rapport à sa famille, il était très vigilant. Dans Job 1, vous savez, ses fils, ses enfants faisaient la teuf. La fête. Oh. Et puis après, ils faisaient la fête. Ils invitaient les copains. Enfin bon, c'est dit dans Job 1. Hein. Et puis lui, après, eh bien, il offrait des sacrifices. Il demandait pardon pour les bêtises que ses enfants avaient pu faire quand ils faisaient la fête. Donc, il était vraiment gardien du foyer. Et concrètement, je pense qu'en tant que parents, ça nous arrive, hein. Moi, ça m'est arrivé, mes enfants, une fois, ils sont allés voir un film pourri. Je sentais que ça attristait l'esprit, le Seigneur. Et puis, j'ai demandé pardon, parce qu'eux, peut-être qu'ils ne se rendaient pas compte. Et j'ai vraiment demandé pardon, Seigneur, ils sont allés voir quelque chose qui vraiment t'a attristé. Et puis, voilà, on se tient comme gardien. Et puis, on veille. Et puis, on offre le sacrifice. On plaide le sang de Jésus, hein, c'est ça que ça veut dire, nous. On plaide le sang de Jésus sur notre famille. Et voilà, donc je rappelle l'histoire de Proverbe 31, la femme vaillante qui faisait ça, Job aussi. Et puis, il y a quelqu'un d'autre, hein, c'est June Lewis qui nous a donné cette image, et puis j'ai trouvé ça très... Ça m'a poursuivi toute ma vie, cette image de June qu'on a reçue quand on était jeune converti. C'est un vaillant héros d'Éternel, un vaillant guerrier de David. Et vous savez son exploit au vaillant guerrier de David? Non, oui, non, il y a ça, mais c'est... Eh bien, il a gardé un champ de lentilles. Alors vous allez dire, oh là là, c'est rien de glorieux, hein, franchement, garder un champ de lentilles... Par rapport aux exploits de Samson, je sais pas, les conquêtes de villes, etc., Jéricho et compagnie, garder un champ de lentilles, franchement, ça n'a rien de glorieux. Eh bien, il est nommé parmi les vaillants, les trois vaillants guerriers de David. Il est très honoré dans la parole. Hein. Vous lisez ça dans 2 Samuel 23. Un homme honoré. Bon, peut-être, oui, 2 Samuel. Je vais lire parce que ça, je pense que c'est un message particulier pour les mères de famille, vous savez, qui sont à la maison, qui n'ont pas de ministère en vue, qui soupirent parce qu'elles en ont ras-le-bol de leur champ de lentilles. Mais le Seigneur, il a un regard de... Il honore les gardiennes des champs de lentilles. Pour lui, c'est important. D'abord, elles sont citées dans la parole. enfin, c'est pas dit que c'est les mères au foyer, mais c'est June qui nous a dit ça, alors je me permets de vous le dire. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et figurez-vous, le peuple fuyait devant les Philistins. Et Shama, ce vaillant guerrier, se tint debout au milieu de la pièce. Il a repris, ou il y a autre traduction, il la racha, il la délivra, il frappa les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Voyez, 2 Samuel 23, 11. Shama se tint debout. Et vraiment, il y a quelque chose que le Seigneur veut vraiment dire aux gardiennes de foyer, hein. Être debout, et peut-être tout le monde fuit devant ces Philistins. Elle se tient debout, elle garde son champ de lentilles, elle l'arrache aux Philistins, et l'Éternel opère une grande délivrance. Et elle est honorée. Dans les lieux célestes, elle est honorée. Même si même l'Église ou les gens autour ne voient pas du tout la valeur de ce qu'elle fait, le Seigneur lui l'honore. Elle est fidèle dans son rôle de gardienne de son champ de lentilles. Voyez, et c'est très précieux. Et bon, en son temps, plus tard peut-être, le Seigneur va lui confier un peu plus qu'un champ de lentilles. Mais c'est fondamental qu'elle commence par son petit champ de lentilles. Et pendant le temps de louange, il me revenait à quelque chose je fais lire à mes élèves de 3e, un témoignage très fort, et je voudrais vous partager ce témoignage. C'est un livre qui s'appelle « Une mère face au Reich ».« Une mère face au Reich ». Vous voyez la disproportion, hein, le Troisième Reich, hein, on parle du Troisième Reich. « Une mère face au Troisième Reich ». Qui c'est qui a gagné ? La mère. Alors j'explique, c'est un très beau livre, très, très poignant, très touchant. Une famille chrétienne allemande, vraiment chrétienne, les deux parents chrétiens, convertis, aimant le Seigneur, faisant le culte familial avec leurs enfants, fréquentant une église, etc. Et puis, montée du nazisme, et puis ils ont trois enfants à l'époque, après ils en ont eu un quatrième pendant la guerre, mais trois enfants, et à un moment donné, un des garçons, ils ont deux garçons, un garçon revient à la maison, enthousiaste, heureux comme tout, « Maman, les jeunesses hitlériennes, c'est fabuleux, formidable !» Et la maman, consternée, « Ça y est, le poison est entré dans ma maison. Ça y est, le poison est là. » Et elle va commencer à se battre contre ce poison de l'hitlérisme. Bon, nous, on pourrait traduire, hein. Violence, sexualité, impureté, pornographie, mort, esprit de mort, gautisme, etc. etc. Hein, on traduit, mais on a le même combat. Hein. Elle a commencé à se battre par rapport à ça. Et puis, c'était des années de combat. Pendant la guerre, l'autre fils, lui, qui était vraiment au Seigneur, attaché au Seigneur, qui aimait Dieu, etc., un garçon doux comme tout, enrôlé, et puis pas n'importe où, enrôlé chez les SS. Parti sur le front russe. Et puis, il a été prisonnier des Russes. Et vous imaginez les traitements que les Russes infligeaient aux prisonniers SS. Ils avaient tellement souffert des SS que les prisonniers SS ne leur faisaient pas de cadeaux. Et ce garçon est resté aux portes de la mort pendant des années. Hein, il est rentré qu'en 1950 chez lui. Et la mère s'est tenue à la brèche, quoi, pendant toutes ces années. Il était vraiment dans la mort, quoi, ce garçon. Mort presque spirituelle, parce qu'il était dans un environnement terrible de la part des Russes, bien sûr, mais aussi les SS. Les SS, entre eux, c'était terrible. Hein. Il n'y avait aucune solidarité. Enfin, vous imaginez, hein, vu la culture de mort qu'ils avaient avalée pendant des années, ils n'avaient aucune solidarité, aucun esprit d'entraide, rien, rien, rien. C'était chacun pour soi. Il raconte même un passage, il avait économisé jour après jour pour avoir une petite ration de sucre qu'il voulait manger pour son anniversaire. Et puis des autres prisonniers lui a volé. Il était effondré, quoi. Hein. Et elle s'est tenue à la brèche pendant des années. Et en 1950, quand il est rentré, toute la famille était indemne. Et c'était très rare en Allemagne qu'une famille se retrouve indemne avec deux garçons qui étaient à l'armée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était très, très rare. Hein. Mais elle s'est battue et elle a gagné. Et ce que je veux dire, c'est un message fort pour nous en tant que maman, que parents dans notre société. On confronte très fort une culture de mort, mais on souhaite tenir debout et on va gagner. On va gagner. Et comme disait Churchill, il promet du sang et des larmes. Bon, nous, les larmes, certainement, certainement. En tant qu'enseignant, en tant que parent, on en verse, c'est évident. Du sang, c'est le sang de Jésus, pour l'instant. Hein, on attend notre sang à nous, peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est le sang de Jésus qu'on plaide. Mais il y a un combat à mener. Hein, Churchill, il l'avait dit, le nazisme est prêt d'envahir l'Angleterre. Vous allez vous battre, quoi. Il faut se battre. Il avait promis le combat. Donc, nous, pour l'Église de France, pour l'Église qu'on est, il y a des combats devant nous. On ne peut pas ne pas mener des combats. Et dans les familles, et dans notre propre vie, on a des combats. Mais on a des armes et on va gagner. Mais il y aura du sang et des larmes. C'est ce que Churchill a dit, il avait bien raison. On ne va pas se dorer la pilule en disant « Mais oui, ça va aller bien, on loue sur notre petit nuage rose et puis tout va bien. » Non, non, il y a des armes à prendre, dont celle que nous a donnée Sam Matthews. Il y a des armes et on les prend en main et puis on a la victoire. Mais parfois, il faut des années, comme cette maman. Hein. Je pense qu'il y a dû au moins avoir c'est du 33, c'est la montée du nazisme, jusqu'à 1950. Vous voyez le nombre d'années de combat qu'elle a mené, hein, cette maman. Voilà. Et donc ça, c'est le deuxième champ. Voilà, deuxième champ, c'est champ d'action, c'est notre famille. Et c'est valable pour les pères et mères, mais aussi pour les enseignants, pour les grands-parents. Enfin, vous voyez. Voilà, c'est vraiment un grand combat. Et puis, j'aimerais passer maintenant aux caractéristiques. Qu'est-ce qui caractérise un portier dans la parole ? Alors, on en parle beaucoup dans 1 Chronique 9 de ces portiers. Et puis, on va voir quelques caractéristiques spirituelles. Qu'est-ce qui les caractérise ? 1 Chronique 9. Alors, les portiers. 1 Chronique 9. On en parle à partir du verset 17. Et puis, il y a pas mal de versets qui leur sont consacrés à ces portiers. 1 Chronique 9, 17. Les portiers. Alors, on donne tous les noms des portiers au verset 17. Et puis, au verset 19, on explique que leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel. Donc, ça date déjà de l'époque de Moïse. Hein. Et puis, au verset 20, on nous parle de Phinée. Phinée, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur conducteur. Alors, c'est très intéressant qu'on apprenne que Phinée était un portier, avait un rôle de portier. Parce que Phinée, ce n'est pas n'importe qui. Phinée, oula c'est un violent, Phinée. Nombre 25, c'est quelqu'un de... Il a été très béni, très honoré par Dieu. Il a fait quelque chose d'assez spécial, Phinée. Vous connaissez l'histoire peut-être, mais je la rappelle pour ceux qui ne connaissent peut-être pas. Nombre 25, je vais peut-être le prendre. Nombre 25. Sur les conseils du prophète Balaam, les Madianites, les jolies filles Madianites étaient venues voir les fils d'Israël. Et puis, elle les avait séduits. Et donc, l'impureté était rentrée dans le camp d'Israël, alors qu'ils étaient aux portes de la terre promise. Ce n'était pas le moment de trébucher, quoi. Hein. Et puis, voilà, Balaam, très bon conseil aux ennemis d'Israël. Envoyez-leur des Madianites, vous allez voir ce que ça va donner. Et puis, oui, bien sûr, ils sont tombés dans le panneau. Impureté, impudicité, etc. Et puis, Phinée, il a vu ça. À ce moment-là, il y a une plaie, un jugement d'Éternel qui est tombé, une plaie. Phinée... Il s'est levé, il a pris sa lance, et puis il a percé de la lance le fils d'Israël qui commettait l'impureté, la fille Madianite, en plus dans le bas-ventre, bien là où il y avait péché. Et puis la plaie s'est arrêtée, et l'Éternel l'a vraiment honoré, il lui a dit « il y aura une alliance de paix avec toi, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel ». Dieu l'a vraiment honoré. Et ce qui est intéressant dans Phinée, c'est qu'il a pas seulement combattu des ennemis, bon les Madianites, il a tué sa propre chair, vous voyez. Il a tué des gens de son propre peuple, enfin, cet Israélite-là. Il l'a tué. Et ça, ça nous parle très fort, ça nous parle de ne pas ménager la chair, y compris la sienne propre, y compris celle de sa famille. Ne pas ménager la chair dans le sens mauvais du terme, hein, la chair, ne pas la ménager. Et dans la parole, il y a un autre personnage qui, lui, a ménagé sa chair. Et là, ce qui est le résultat, c'est la mort. Et ce personnage, c'est Élie, pas le prophète, l'autre sacrificateur. Hein. Il a ménagé ses enfants, la chair de ses enfants. Il leur a laissé faire n'importe quoi. Le résultat, ça a été la mort, mais vraiment la mort. Alors que Dieu, lui, a honoré Phinée, qui n'avait pas hésité à percer de la lance un de ses propres frères. Bon, là, on parle d'une chair. Hein. Mais il y a un zèle pour garder la maison de l'Éternel, garder le camp d'Éternel. Il y a un zèle qui est là. Et on retrouve ce même zèle, on le voit chez Jésus à un moment très précis de son ministère. Vous pouvez me dire lequel ? Voilà, hein ? Voilà, c'est ça. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle, on peut dire aussi la jalousie, la sainte jalousie pour Dieu. C'est le même zèle. Phinée, Jésus, dans ce passage-là, c'est le zèle du portier. Il voit l'impureté qui veut rentrer, et puis il prend l'épée, il prend la lance, et puis voilà, il repousse l'impureté. Ça, c'est quelque chose de propre au portier, c'est le zèle pour la maison de Dieu. C'est la sainte jalousie pour la maison de Dieu, pour la sainteté de Dieu. Ça, c'est vraiment particulier aux portiers. Donc, voilà, Phinée faisait partie des portiers. Alors, il y a aussi une relation, alors pas pour tous les portiers, hein, mais certains, on le voit au verset 26. Certains, les vaillants des portiers, vous avez vu, c'est quelque chose de très curieux, la vaillance est associée au fait d'être portier. Nous, dans notre culture occidentale, un portier, ce n'est pas forcément quelqu'un de vaillant. Hein. On pense à concierge, on pense à des tas de choses bizarres, mais certainement pas à la vaillance. Mais il faut renouveler notre pensée. Qu'est-ce que c'est qu'un gatekeeper, un gardien de porte dans l'ancienne alliance? Eh bien, ils étaient des vaillants hommes, des vaillants guerriers. Ils étaient toujours responsables. Ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Donc, il y a une relation avec certains portiers et les finances. Je dis pour les trésoriers qui sont parmi nous. Relation avec les finances. Verset 27. Ils passaient la nuit dans les environs de la maison de Dieu, car ils en avaient la garde, ainsi que le devoir de l'ouvrir chaque matin. Donc, s'ils avaient le devoir de l'ouvrir, c'est qu'ils avaient une clé. Hein. Ils ouvraient la maison de Dieu chaque matin. Et moi, ça me parle beaucoup, ce passage, parce que nous, on est un petit groupe, là, au château, on fait ça tous les matins. On ouvre le château. Alors, on ouvre le château très concrètement avec la clé, pour que les autres profs puissent rentrer. Mais on l'ouvre aussi à la présence de Dieu tous les matins, par ce temps de louange et de prière. On est des gardiens de la porte. Hein. C'est-à-dire que ta présence vienne sur ces salles de classe, sur tout l'établissement. On est les portiers, quelque part. Et on peut être aussi, en tant que gardien de la famille, ouvrir notre famille à la présence de Dieu, à la bénédiction. Et là, il suffit d'appliquer le message de ça, mais on a tous les outils pour faire ça bien comme il faut. Les 12 noms d'éternel, 3 fois chacun, enfin, il y a du boulot. Il y a une notion de fidélité au verset 22. La responsabilité, et littéralement, on parle de fidélité au verset 22. Donc chronique, oui. Où est-ce que j'ai mis ça? Attends, non, je ne trouve pas dans le verset. La chronique 9, j'ai noté 22. Oui, c'est plutôt 27. Hein. Oui. Ils étaient responsables. Et puis, certains aussi étaient dans la louange. Donc, on peut être portier, être affecté à la louange. Et puis, intéressant aussi, quand il y a eu le fameux combat contre Athalie, on voit ça dans 2 Chroniques 23. Il y a eu la restauration du culte après tout ce temps de paganisme avec Athalie, la méchante reine Athalie. On a placé les portiers au porche de la maison de l'Éternel. On lit ça dans 2 Chroniques 23, verset 19. Le sacrificateur plaça les portiers au porche de la maison de l'Éternel pour qu'il n'entre personne qui serait impur pour une cause quelconque. On trouve cette même notion, garder la sainteté du temple. C'est ce zèle de Finé, ce zèle de Jésus qu'on retrouve. Hein. Et les portiers du temple, dans 1 Chronique 26, au verset 6, on nous dit qu'ils étaient des fils qui exercèrent l'autorité dans leur famille, car ils étaient de vaillants héros. 1 Chronique 26, verset 6. Des fils qui exercèrent l'autorité dans leur famille, car ils étaient de vaillants héros. Verset 8. Des hommes vaillants, pleins de force pour le service. Donc, les gardiens de la porte, il y a une notion d'autorité, une notion de vaillance, une notion de force. Et on voit dans Néhémie 7 qu'ils rétablissent les portiers après tout un temps où les portiers, ça n'existait plus. Hein. Et ça fait partie de la réforme, ça, de Néhémie, de remettre les portiers dans leur fonction. Et là, il y a une relation forte avec le sabbat. Qu'est-ce qui se passait du temps de Néhémie? Eh bien, au moment du sabbat, là, vous savez que Jérusalem était entourée de commerçants venant de toutes les régions, de Tyr, de Sidon, enfin tous ces gens-là. Et puis, ils ne respectaient pas du tout le sabbat. Hein. Eux, le sabbat, ça ne voulait absolument rien dire pour eux. Donc, ils pénétraient dans Jérusalem avec toutes leurs marchandises et puis comment continuer le commerce le jour du Shabbat. Et puis, Néhémie a vu ça. Il a dit non, ça ne va pas du tout. Et c'est là que les portiers sont entrés en fonction. Hein. Néhémie 13, verset 19. Je plaçais mes jeunes serviteurs, mes jeunes, en plus des jeunes, hein, je plaçais mes jeunes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Ce n'est pas seulement les fardeaux qu'on parle, mais ça parle des marchandises, de tout ce trafic de commerce. Et là, je dirais, par rapport à nous, certainement, c'est toutes les influences mammon, commerce, soucis du monde, cette fébrilité du monde qui voudrait insidieusement pénétrer dans le temple que nous sommes. Il y a quelque chose, il faut vraiment garder nos portes de nous-mêmes, et puis nos portes d'église, etc., les garder de cette fébrilité du monde qui voudrait sans arrêt rentrer. Et là, il faut vraiment être vigilant. Nous sommes appelés à être dans le repos. Le repos du Shabbat, c'est pour nous tout le temps. Il y a ce repos qui est une promesse de Dieu pour son Église, et tout ce qui nous environne voudrait nous voler ce repos. C'est l'entrée des fardeaux, le jour du Shabbat, nous voler le repos de la présence de Dieu. Et sans arrêt, il faut qu'on veille, sans arrêt. Il n'y a pas longtemps, il y a un reportage à Thalassa, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça parlait des grandes villes du désert. Il y a une ville en plein désert, il y a une ville qui est pleine de, qui est pleine de vie. En plus, ils ont une littérature très riche. Enfin, ils gardent des choses très précieuses dans cette ville. Mais ils ont un combat permanent, permanent, permanent contre le sable. Le sable voudrait sans arrêt s'infiltrer et venir et les envahir. Et sans arrêt, ils doivent se battre contre le sable. Et ben nous, c'est pareil. Sans arrêt, la mort veut s'infiltrer. L'esprit du monde, la fébrilité, l'agitation veut s'infiltrer. Et sans arrêt, on doit tenir ferme, sans tenir ferme avec la force de Dieu. Et donc, les portiers doivent se purifier et garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Donc, ça a une relation avec la purification, ça a une relation avec la profondeur, la plénitude du Shabbat, du repos dans nos vies. Et par rapport à l'impureté, il y a un passage intéressant dans Néhémie 13. Alors là, on voit aussi le problème des liens humains, vous savez, de la chair. Parce que le sacrificateur de l'époque, il avait des relations parentales avec un ennemi de Néhémie, celui qui ne voulait absolument pas que la réforme se fasse, Tobia. Et alors, non seulement ça, par relation, par, amour charnel, quoi, hein, par, des petites choses charnelles, ben, Tobia, il a carrément réussi à avoir une chambre au plein milieu du temple. Vous vous rendez compte ? En plein milieu, grâce à ses petites relations avec le sacrificateur de l'époque, une chambre en plein milieu. Et bien sûr, quand Néhémie est revenu, il a vu ça, il était outré. Il y a eu ce zèle de Dieu qui est monté en lui. Et puis, il a vidé Tobia vite fait, quoi. Hein. Alors, je crois qu'il y a quelque chose d'important pour nous. Dans les temps d'élargissement où nous sommes, eh bien, on aura droit à ce que Tobia a voulu faire, s'infiltrer, vous voyez. On ne parle pas de la chair et du sang, on ne parle pas de personne, hein, on parle d'esprits qui veulent s'infiltrer dans le corps de Christ, des esprits de l'extérieur, des esprits complètement opposés à la réforme, à ce qu'on veut impacter dans la ville. Dans ces temps d'élargissement et de réforme et de reconstruction, il faut vraiment qu'on veille à ce qu'il n'y ait pas un Tobia impur qui vienne mettre sa petite chambre en plein milieu de nous, là, hein, en tant qu'esprit. On doit vraiment, je pense, les portiers au milieu de nous, et nous sommes tous portiers, on doit être particulièrement vigilants parce qu'on est dans un temps de Néhémie, quoi, un temps de reconstruction. Et donc, Tobia ne va pas nous laisser tranquilles. Hein. Voilà, je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib, le sacrificateur, en disposant une chambre pour Tobia dans les parvis de la maison de Dieu. Je le pris très mal, je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobia. Je dis de purifier les chambres et j'y replaçai les objets de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. On retrouve ce même zèle que Jésus avait en chassant les vendeurs du temple. Hein. Donc ça, ça fait partie du rôle du portier. Donc on a vu un peu toutes les caractéristiques du portier, le zèle en particulier, la purification, veiller à la sainteté de Dieu, la notion de fidélité, la notion de vaillance, la notion de héros, la notion de force. C'est tout ce qui fait donc les qualités du portier. Et puis donc je reviens là quand même à ce qu'a dit Martin Scott. Il a dit qu'on était une église porte. Alors ça veut dire quoi? Et puis il nous a parlé de Philadelphie. Bon, c'est bien, hein, on est content d'être une église Philadelphie. Il paraît que normalement, c'est des petites églises, les églises de Philadelphie, mais elles ont un rôle particulier. Et on le voit dans donc, Apocalypse 3. Hein, je vais peut-être prendre quelques éléments de Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Alors, Philadelphie, il faut savoir que c'était donc une ville en Asie mineure et elle était aux confins de l'Empire romain. Vraiment aux confins, c'est-à-dire que face à Philadelphie, de l'autre côté, vers l'est, eh ben, c'était les barbares, quoi. Enfin, vu du point de vue gréco-romain, c'était les barbares. Elle faisait face au monde barbare. C'était l'extrémité du monde romain. Et donc, c'était une ville extrêmement stratégique, parce qu'il y avait des routes importantes qui y passaient. Et en plus, elle était appelée à impacter, à faire passer la culture de l'Empire romain vers l'est. Donc, c'était une ville porte, quoi. Mais c'était pas du tout confortable de vivre à Philadelphie. C'est pas confortable du tout de vivre dans une ville porte. En plus, il y avait des séismes. Il y avait régulièrement des tremblements de terre à Philadelphie. Et d'ailleurs, nous, entre parenthèses, on est aussi sur une région sismique. Hein. Donc, bon, quelque part, il y a des points de rapprochement avec Philadelphie. En tout cas, c'était pas une zone confortable, ni sécurisante pour y vivre. Mais il y avait cette église de Philadelphie, et le Seigneur lui dit, il veut lui donner la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme, personne n'ouvrira. Alors la clé de David, il faut savoir que ça fait référence à un passage de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, c'est Ésaïe 22. Et je crois que Ésaïe 22 est plein d'instructions pour nous. Ésaïe 22, on voit que dans Ésaïe 22, à partir du verset 15, il y avait un homme qui avait une autorité. C'était un courtisan, verset 15, hein, Ésaïe 22, verset 15. Shebna, gouverneur du palais, donc quelqu'un qui a autorité. Et à un moment donné, alors qu'il a cette position d'autorité, le Seigneur lui dit, qu'est-ce qui est à toi ici? Qui as-tu? Verset 16, hein, donc Ésaïe 22, verset 16. Qu'est-ce qui est à toi ici? Qui as-tu pour toi ici que tu creuses ici un sépulcre? On se creuse un sépulcre sur la hauteur, on se taille une demeure dans le roc. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est un homme, il avait une position d'autorité, mais il voulait se montrer, quoi. Il voulait se faire voir. Il cherchait la reconnaissance, il cherchait à se faire valoir. Et en plus, ça nous parle de mort. Il se creuse un sépulcre. Donc c'est quelqu'un qui est en position d'autorité, mais qui est dans la mort, qui veut se faire voir, mais ça fait que de la mort autour de lui. Et à un moment donné, il y a un jugement de Dieu qui tombe. Verset 17. Voici que l'Éternel te jettera d'un jet vigoureux, il te bâillonnera d'un bâillon, il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse, et là tu mourras, là seront tes chars magnifiques, ô toi l'ignominie de la maison de ton maître. Donc à un moment donné, le jugement tombe, parce que c'est un homme qui est dans la mort, et qui cherche les honneurs, qui cherche à se faire valoir, qui cherche une position, une reconnaissance. Le jugement de Dieu tombe, il est ôté de son poste d'autorité. Et verset 20, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkia. Je le revêtirai de ta tunique, je le sannerai de ton écharpe, je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Donc il y a un changement d'autorité. L'Éternel intervient, il juge, il y a un changement d'autorité. Et Éliakim, il est revêtu de la tunique, il est saint d'écharpe, et ça nous parle des attributs du sacrificateur. Donc c'est quelqu'un qui a un cœur de sacrificateur. Et puis il sera un père. Il a un cœur de père. Il a un cœur de père. C'est deux attributs fondamentaux pour quelqu'un qui est appelé à recevoir la clé. La clé, ça nous parle du portier. Hein. Le portier, il a la clé, mais ça parle d'autorité pour ouvrir, pour fermer. Ça nous parle de ce que Dieu veut faire pour notre église Philadelphie. Dieu veut nous donner cette clé. Il veut faire qu'il y a un changement d'autorité. Il veut juger les autorités qui sont mal fondées, qui sont dans la mort. Mais pour ça, ça nous demande un cœur de sacrificateur. Ça nous demande un cœur de père. C'est pourquoi le séminaire qu'on va avoir est tellement, tellement important, parce que c'est évident que Dieu veut donner à l'Église de France une nouvelle autorité, mais pour ça, il faut qu'elle ait un cœur de père. Il faut qu'elle soit revêtue du sacerdoce, qu'elle ait vraiment ce cœur de sacrificateur. Sinon, il ne pourra pas lui donner cette autorité qu'il veut. Et il veut juger les anciennes autorités et mettre en place une nouvelle autorité. Je mettrai sur son épaule, donc l'épaule, ça parle du gouvernement, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un piquet ou comme une cheville dans un lieu sûr. Et sûr, ça parle aussi de fidélité, un lieu de fidélité. Il sera un siège de gloire pour sa famille. Voilà. Donc il y a quelque chose de très fort avec Philadelphie. Ça, c'est en relation avec Philadelphie, hein, puisque c'est de ce passage-là que vient le passage de Philadelphie. Dieu veut nous donner des clés d'autorité, mais il ne les donnera que à une église qui a un cœur de sacrificateur et un cœur de père. C'est pour ça qu'il est vital que tous ensemble, en tant qu'église, on reçoive ce cœur de père. Et c'est valable pour nous, mais c'est aussi valable pour toute l'Église. Et après, elle continue. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Alors, dans la version seconde, dans la version française, on a voici. Alors, c'est pas voici. Désolée, c'est pas voici. Je suis allée voir le texte grec et on nous l'a dit. Martin Scott nous l'avait dit. C'est pas voici, c'est voix. Et voici, vous l'avez trois fois. Hein. Voici, donc voix en fait. Voix. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. Voix, verset 9. Je livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne sont pas car ils mentent. Vois, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Donc trois fois, vois. Donc Philadelphie, je le répète parce que tous ceux qui étaient là en 2005. Oui, Apocalypse 3, versets 8 et 9. Il y a trois fois, en deux versets, trois fois, vois. Dans notre traduction, c'est voici. Mais en grec, c'est vois. C'est ce que disait Martin Scott hein, en juin 2005. Donc c'est très important, la vision pour une église de type Philadelphie, c'est très 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 important. Et d'ailleurs, ce qui nous a étonnés, c'est que quand Sam Matthews est venu cette semaine, il a parlé aux enseignants mercredi soir, il a dit qu'il avait été très attaqué dans la vision. Et certainement par des chrétiens. Je ne pense pas que ce soit des attaques de l'ennemi, hein, du monde. C'est des chrétiens qui ont dit, mais ça ne va pas, la manière dont tu fais, la manière dont ton école tourne, ça ne va pas quoi. Il a dû vraiment se remettre devant Dieu, est-ce que cette vision elle vient de toi Seigneur, oui ou non. Donc Philadelphie, elle sera forcément attaquée au niveau de la vision. Et la synagogue de Satan, c'est des gens qui lui disent c'est pas bon la manière dont tu fais les choses, ça va pas quoi. Et voilà, c'est ça. C'est un esprit qui dit Non, c'est nous qui faisons les choses comme il faut, c'est pas vous. Ce que vous faites n'est pas légitime, vous ne faites pas de la bonne façon. C'est ça ce que dit la synagogue de Satan. Hein. Et il y a une attaque par rapport à la vision. C'est pour ça que c'est très important de garder notre vision. Et puis, on a quelque chose de particulier. Donc, on confronte le monde barbare, hein, Philadelphie. Donc, on doit faire la percée. On est une église porte, on doit faire la percée. Et ce qu'il nous faut pour ça, c'est la vue. Et l'important pour nous, ce n'est pas les ressources, c'est la vue. Alors, je répète ce que dit Martin Scott, c'est mes notes de juin 2005. Le diable sera bien content de nous donner des ressources si nous perdons la vision. Donc, notre appel premier, c'est de faire la percée. Et ce qui est devant nous, c'est tout à fait inconfortable. Je le dis parce que je pense qu'on est vraiment dans des temps d'accélération. Ça, c'était juin 2005, on était encore relativement tranquille. Maintenant, on est à fond, en plein dedans. C'est pour ça que je crois que c'est important de rappeler ce message. On doit avoir la capacité d'avoir des visions qui vont au-delà de ce qu'on peut accomplir. Et ça, c'est très inconfortable. Et ça, c'était même, on est appelé à avoir ce style de vie-là. On voit au-delà de ce qu'on peut immédiatement accomplir. Donc, on contrôle plus, quoi. Hein. C'est un style de vie, c'est très inconfortable. Donc, voilà. Mais il y a des promesses fabuleuses. Hein. Au verset 12, « Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. » Et le temple, bah, c'est nous tous, on est ce temple. Et le temple, ça nous parle, ce temple que nous formons tous ensemble, il sera une place de présence divine, une place de divinisation divine. Et ce sera aussi une maison de prière pour toutes les nations. C'est ce lieu, vous savez, comme a vu Jacob avec les anges, la porte ouverte entre les cieux et la terre. C'est ce qu'on est appelé à être. En tant qu'Église, pour que la présence de Dieu visite toute notre région, mais aussi chacun individuellement. Je crois vraiment qu'on est appelé chacun, si on en est conscient, on a une autorité pour appeler les cieux à venir sur terre, quoi. Et ça peut être très concrètement, quand on a fait une queue au supermarché, on bénit, on appelle à la visitation du ciel sur les personnes qui nous entourent. Ça peut être... j'aurais des choses à raconter sur les... Quand on bénit des administrations, quand on bénit des médecins, et ben, il se passe des choses. Je crois qu'on n'utilise pas encore l'autorité... On n'utilise pas assez cette clé de l'autorité de David. On est en connexion avec les cieux sont ouverts en nous, et on peut libérer la grâce, libérer la vie partout où nous sommes. La porte, c'est à double sens. Hein. On se garde de tout ce qui est mauvais, mais on libère la vie là où il y a besoin. On libère la grâce, on libère tous les attributs du nom de Dieu qu'on a vu avec Sam. On les libère là où nous sommes et c'est fabuleux. Quoi. Quand on réalise ça, pas seulement en tant qu'Église, mais en tant que personnellement, on impacte le monde qui nous entoure. Et moi, je fais un rêve en tant qu'enseignante, je parle pour les enseignants. Moi, je dis, Seigneur, moi, ce que je veux, j'aimerais bien qu'on y arrive, hein, c'est quand on rentre dans une salle de classe, c'est le royaume de Dieu qui est là, point final. Vous voyez ? C'est pas la chair, la chair, elle dégage, elle n'a plus rien à faire. Et puis, c'est la présence du royaume, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Voilà. Mais on va y arriver. L'important, c'est de garder la vision. Voilà. Et du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui. Alors là, on a tellement parlé des noms. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Il y a trois noms. Alors, mon nom nouveau, c'est... Qu'est-ce qui c'est qui parle là ? Le mon, c'est qui ? On parle de qui quand on dit mon ? Qu'est-ce qui dit mon nom ? C'est le nom de qui ? Mon nom nouveau. C'est Jésus. Donc, le nom de mon Dieu, c'est qui ? C'est un autre nom. C'est le nom de qui ? Du Père. Donc, il y a un nom nouveau de Jésus, mais on ne sait pas lequel c'est. Ça, c'est un peu intriguant, d'ailleurs. Mon nom nouveau, c'est lequel de nom ? Jésus a beaucoup de noms aussi. Hein. Et le nom de mon Dieu, c'est le nom du Père. Donc sur cette ville, Philadelphie, il y aura le nom du Père, le nom du Fils, et puis le nom de la Nouvelle Jérusalem. Et il y a une grande puissance, on l'a vu dans le nom, mais il y a le Père qui est écrit, un cœur de Père. Et c'est pour ça que c'est essentiel, ce séminaire, plus on y pense, plus on prie pour ça, et plus on dit que c'est absolument essentiel. Je crois que toute l'Église ici doit être mobilisée dans la prière pour ce séminaire, parce que Dieu veut vraiment... inscrire le nom du Père sur nous. Et pas seulement sur nous, mais sur l'Église de France. Et on a besoin pour ça d'élargir ça. J'avais noté, pour que l'Église de France puisse exercer pleinement l'autorité que Dieu veut pour elle, il faut qu'elle ait la révélation. Ah oui, il y a aussi autre chose, oui, c'est l'obéissance. On a l'autorité dans la mesure où on obéit. Vous êtes d'accord avec ça ? Et vous rappelez le centenier ? Jésus l'a admiré. faut le faire quand même. Jésus qui admire ou s'étonne, c'est le même mot en grec qui veut dire admirer ou s'étonner, il s'étonne de la foi de centenier. Je dis à un homme, oh, vas-y, et il va, etc. Et puis c'est pareil pour dans le royaume de Dieu. Mais on a l'autorité dans la mesure où on obéit. Donc, alors suivez le raisonnement, l'Église de France, elle va obéir pleinement au Père, faire uniquement ce que le Père lui montre, comme Jésus, dans la mesure où elle a la révélation du Père. Elle ne peut pas obéir au Père si elle ne connaît pas le Père. On est d'accord. Donc elle ne peut pas faire comme Jésus. Hein. Jésus faisait uniquement ce que le Père lui montrait de faire. Donc il avait l'autorité, Jésus, parce qu'il faisait que ce que le Père lui montrait de faire. Si l'Église de France reçoit cette révélation du Père, elle va avoir la grâce d'obéir, parce qu'elle connaîtra le Père, elle sera en intimité avec lui. Donc elle va obéir, donc elle va recevoir l'autorité. C'est lié. Et si elle reçoit l'autorité, eh ben les mauvaises autorités, elles dégagent. Vous voyez ? C'est basique, c'est logique. Non ? C'est logique. Donc c'est vital qu'on reçoit la révélation du Père, et comme ça, l'Église de France sera dépouillée de l'humanisme. Donc, l'humanisme, c'est faire ce que moi, je veux. L'homme au centre. Si elle se positionne, c'est le Père, je fais que ce que le Père me montre. On n'est plus dans l'humanisme, là. L'homme, il s'écrase, il s'écrabouille, et puis c'est le... On fait que ce que on voit faire au Père. On est lié au Père, on est dans l'intimité avec le Père, donc on reçoit l'autorité qu'avait Jésus. Et si on reçoit l'autorité qu'avait Jésus, eh bien, les mauvaises autorités, comme on a vu dans Ésaïe 22, les autorités, mauvaises autorités, elles dégagent sur notre pays. Donc, le cœur de Père, c'est énorme, quoi, l'enjeu. Voilà. Et nous, en tant qu'Église Porte, c'est nous qui devons faire la percée, donc c'est pas étonnant que le séminaire ait lieu à côté, et que, etc., etc. Vous voyez ? Donc, un enjeu énorme. Donc, voilà. Vous voyez le travail. On a la grâce de Dieu pour le faire. Et puis, en plus, c'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait en nous. Donc, voilà. On est juste des canaux disponibles, et puis le Seigneur va le faire. Hein. Seigneur, oui ? Bah, tu peux dire au micro, Manu.
Par rapport au changement d'autorité, ça me parle. Donc, j'ai appelé Luc ce matin, parce que je ne me souvenais plus l'heure du retour. Il était donc à ce colloque protestant sur l'éducation à Paris. Donc, je lui ai demandé rapidement comment ça s'était passé. Donc, vous savez que les protestants ont donné toutes leurs 2000 écoles hein, avec Jules Ferry, et il leur en reste juste 5. Et Luc me dit qu'il n'y a absolument aucune vision. Donc lui, il n'y est pas allé, il n'a pas été invité par eux directement, il a été invité de façon détournée par un baptiste. Donc il était là avec un frère des écoles adventistes de Collonges, donc eux, ils étaient tous les deux, mais il me dit, il n'y a absolument plus aucune vision, quoi. Ils sont là, effectivement, ils se montrent, ils veulent être bref, mais il n'y a plus rien d'éducation chrétienne. Alors ça m'encourage d'entendre ça, que le Seigneur nous donne d'être fidèles dans cette intimité, dans la recherche du cœur du Père, jusqu'à ce qu'il y ait ce changement d'autorité et que les fausses autorités tombent et que l'autorité de Dieu puisse s'installer pour que l'éducation selon le cœur de Dieu vienne sur notre nation. C'est vraiment une question de vie ou de mort, parce que c'est par l'éducation que la vie ou la mort va impacter nos jeunes. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vie. Ta parole, nous l'avons revue avec Sam, tu le dis dans Hébreux, quelle est cette parole vivante qui sépare ce qui est de la moelle, ce qui est de l'esprit, ce qui est de la chair, ce qui est de l'eau. Seigneur, te prions que ta parole fasse le travail dans nos vies. Que ta parole de ce matin, cher Saint-Esprit, soit vivante et fasse son effet. Seigneur, je te prie de nous donner, de nous tenir tous ensemble, vraiment comme un seul homme. Seigneur, trop souvent, nous nous voyons comme des sauterelles et nous ne réalisons pas la mesure de grâce qui est dans nos vies. Je te prie que chacun ici ne méprise pas le don de Christ qui est en lui et que nous puissions nous tenir ensemble, Seigneur, comme ces portiers dans nos vies, dans nos familles et dans cette nation, dans cette ville. Seigneur, vraiment, nous nous disons ton shalom sur nous. Que ta paix, que ta grâce soit avec nous, que l'onction de ton esprit, toi le conseiller, soit avec chacun dans le précieux nom de Jésus. Et nous scellons ces choses dans le sang de l'agneau. Amen.
Je rappelle juste les cellules, vendredi soir. Est-ce qu'il va encore